Aujourd'hui, à Rencontre spirituelle, il sera question de Saint Jean-Baptiste, puisqu'il est célébré le 24 juin en plein été durant les vacances, et qu'aujourd'hui, il en est question dans l'Évangile. C'est aussi, soit dit entre nous, l'anniversaire de mon baptême, façon de célébrer mon baptême. Et dans l'Évangile, aujourd'hui, on raconte, c'est l'Évangile de Saint-Luc, qu'on disait un jour à Jésus, les disciples de Jean-Baptiste, jeûnent. Ils jeûnent souvent, ils font des prières. De même, les disciples des pharisiens. Mais au contraire, tes disciples, à toi, Jésus, mangent et boivent. Et Jésus leur dit, « Est-ce que vous pouvez faire jeûner les invités de la noce pendant que l'époux est avec eux ?» Mais un temps viendra où l'époux leur sera enlevé, ces jours-là ils jeûneront. C'est dire que si les disciples dans le temps de Jésus ne jeûnaient moins, ils nous recommandent à nous de jeûner. Et l'Évangile est exigeant. Nous avons beaucoup de disciplines à avoir pour pouvoir entendre le message de Jésus. Au microphone, Raymond Beaugrand. Jean-Baptiste est un saint extrêmement populaire chez les orthodoxes. Les chrétiens orthodoxes, les chrétiens d'Orient, comme on dit, reprochent aux catholiques et aux protestants de ne pas avoir une dévotion assez vive envers saint Jean-Baptiste. On devrait l'avoir ici au Québec puisqu'il est notre patron. Dans leur dévotion, les orthodoxes, eux, ils mettent saint Jean-Baptiste à la première place après la Sainte Vierge. Et dans leurs icônes, là, vous savez, les belles icônes qu'ils ont dans leurs églises, particulièrement sur l'iconostase, ce mur avec trois portes qui sépare la nef des fidèles du chœur où il y a trois autels, l'autel des préparations, l'autel de la consécration de la communion et l'autel des ablutions. Eh bien, dans leurs icônes, ils le mettent, n'est-ce pas, la première place, comme ça, après la Sainte Vierge. Et puis dans leurs icônes, aux côtés du Christ se tiennent, d'une part, la Vierge Marie, puis de l'autre, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a joué dans l'histoire de la libération de l'humanité un rôle particulier et unique. C'est un homme fantastique et on le connaît si peu. Je me souviens, quand j'étais jeune, tout ce que je connaissais de Saint Jean-Baptiste, c'était ce qu'on voyait à la parade, un enfant blondinet, habituellement, avec des frisettes et un petit mouton. Il terminait la parade de la Saint Jean-Baptiste le 24 juin. Or, il est bien normal pour nous, chrétiens d'aujourd'hui, de chercher dans l'Évangile quel a été ce rôle de Saint Jean-Baptiste. Il faut chercher à restituer, il me semble, ce qu'ont été ses relations avec Jésus, son cousin. Beaucoup d'enseignements de sa vie, me semble, vont être utiles à chacun d'entre nous, à notre façon d'être chrétien chaque jour, aujourd'hui. Et nous serions bien impardonnables de ne pas méditer ces richesses spirituelles, c'est des richesses extraordinaires, puis de ne pas y chercher une lumière pour notre vie. Nous ne savons pas si Jean et Jésus se sont connus vraiment dans leur jeune âge, mais le fait est probable. On le voit bien dans les évangiles, ils étaient parents. Leur mère se connaissait bien, Élisabeth d'une part, la mère de Jean, puis Marie, la Sainte Vierge, la mère de Jésus, évidemment. Puis leur famille ont dû se voir plus d'une fois avant le départ de Jean-Baptiste pour le désert. On calcule, les choses se passaient très jeunes à l'époque. Marie devait avoir 15-16 ans quand elle a mis Jésus au monde, et puis Saint Jean-Baptiste lui a dû partir aux premières années de son adolescence. Tout jeune. La première rencontre officielle entre Jésus et son cousin nous est racontée par Saint Jean l'Évangéliste, le quatrième évangile. Ça a eu lieu sur les bords du Jourdain. Jean-Baptiste était venu du désert à Béthanie, là au-delà du Jourdain, où il baptisait. Puis, souvenez-vous, le lendemain du jour où une délégation de Jérusalem a été envoyée vers lui, on raconte dans le texte, il vit Jésus venant à lui et il dit, ce qu'on répète toujours, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, ajoute encore Jean-Baptiste, « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. » Pourtant, hein, on sait que Jean-Baptiste est né avant l'autre. Jean-Baptiste avait à peu près, on calcule, quelque chose comme 6-7 mois de plus. Il dit qu'il était avant moi. C'est une façon de dire qu'il est de toute éternité. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Je ne le connaissais pas, c'est-à-dire je ne le connaissais pas tel qu'il est. Ainsi, on peut dire que dès les premiers instants, Jean-Baptiste affirme, là, il affirme quoi? Que sa mission à lui, là, a pour raison d'être de préparer la venue puis la manifestation de Jésus. Est-ce que c'est pas aussi notre rôle à chacun d'entre nous? Manifester Jésus, crier, chanter, murmurer notre amour, dire son existence, la joie qu'on a d'y croire, de vivre avec lui. Et le rôle de Jean est temporaire, hein? Il est orienté vers le service du Messie, Jésus, dont il est, comme on dit, on l'appelle toujours le précurseur, c'est-à-dire, disons, l'avant-coureur. Et tout au long de la Bible, les prophètes avaient annoncé cette tâche de Jean-Baptiste, sans le nommer directement. Il l'avait dessiné à l'avance, hein, tout l'horizon psychologique, là, puis apostolique, on peut dire, de Jean-Baptiste, est accaparé par le succès de Jésus. Le sien vient après. Il est relatif, le rôle de Jean-Baptiste. Il est en dépendance totale de la révélation du Messie. Comme nous tous, notre rôle est extrêmement relatif dans le fait d'être des chrétiens qui propagent la vraie foi. En ces jours-là, se place l'événement considérable. Vous vous souvenez, hein, du baptême de Jésus, dont Jean-Baptiste va être l'instrument et dont Dieu, le Père, va profiter pour authentifier la mission de son Fils. Et voyant Jésus, la sainteté incarnée, s'avancer vers lui, là, pour être baptisé du baptême de pénitence, Jean-Baptiste est bouleversé, hein? Il veut se soustraire à cette fonction étrange. Et on dit dans le texte, Jean s'en défendait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » On voit bien l'humilité de cet homme. Souvenez-vous, dans le film Jésus Nazareth, quel homme il était, hein? Quel prédicateur puissant, quel courage il avait, hein? Mais il était humble. L'humilité du serviteur, qui veut pas tolérer que l'on renverse les rôles, et Jésus lui répond, « Laisse-moi faire en ce moment, car c'est ainsi qu'il nous convient de parfaire toute justice. » Puis alors, bien, il le laisse faire. Jean est humble, il est humble. Mais il est surtout docile, il est obéissant aussi. Il en est récompensé. Il devient le seul témoin avec Jésus de cette manifestation trinitaire, la manifestation de la très sainte Trinité qui marque le baptême de Jésus. C'est l'inauguration de la mission divine de celui qui est l'envoyé de Dieu, Jésus. Jean rendit ce témoignage, c'est ce qu'on lit dans le texte de l'Évangile. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel, comme une colombe, et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, l'Esprit la colombe, là, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Et j'ai vu et j'ai entendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. C'est un texte sublime, c'est une déclaration sublime que nous devrions tous avoir au cœur. Tout est devenu clair pour Saint Jean-Baptiste. Il sait pourquoi Dieu l'a si longuement préparé à cette tâche, l'a conduit précisément vers ce jour où, aux foules qui deviennent de plus en plus immenses, qu'il avait travaillé par la pénitence et la conversion, ben il va le manifester. Un jour, le Messie tant attendu par des générations de Juifs. Que de Juifs l'ont entendu, puis il y en a qui l'attendent encore, tel quel un Messie humain. Beaucoup de Juifs attendent un Messie qui serait plutôt un esprit qui s'emparerait de l'humanité, ou à tout le moins du peuple juif. C'est à ce moment-là que Jean-Baptiste comprend que son rôle à lui va se terminer. Il amène à Jésus les disciples se sont attachés à lui. On peut lire dans le texte, le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Alors les deux disciples qui entendent ça, qui entendent prononcer ces paroles-là, ben, ils suivent Jésus, ils se détachent de Jean. C'est beau. Ils vont vers celui qui est la vie. Et c'est eux, les disciples de Jean qui deviennent les disciples de Jésus, qui sont les premiers disciples de Jésus. Je ne dis pas les premiers apôtres, je dis les premiers disciples. Jean réalise, en somme, la parfaite définition de l'apôtre chrétien que nous devrions tous être, qui n'a pour raison d'être que de conduire les âmes à Jésus, de s'effacer pour que s'établisse le contact entre Jésus et ses disciples. Quand on s'efface, c'est Dieu qui passe. Il nous faut remonter plus haut dans la vie de Jean maintenant pour essayer de mieux comprendre ce qu'ont été ses relations avec le Christ. Et le premier élément à signaler, ben c'est la ressemblance entre, vous savez, les circonstances qui marquent la naissance de Jean-Baptiste d'une part, puis les circonstances qui marquent la naissance de Jésus de l'autre. Hein. C'est comme si Dieu voulait que Jean-Baptiste soit en tout le précurseur, le préparateur. Hein. D'un côté, il y a tout d'abord, on le voit dans l'Évangile, l'annonciation à son père, à Zacharie. Puis de l'autre, il y a l'annonciation qu'on connaît à Marie par l'archange Gabriel. Puis sont décrites la naissance puis la circoncision de Jean-Baptiste avant la description de la naissance puis de la circoncision de Jésus. Plus tard, enfin, Jean va partir au désert et Jésus, à son tour, va y passer 40 jours. Mais ce parallélisme, là, ces parallèles, ces choses-là, c'est en même temps une opposition. Et la destinée de Jean doit mettre en valeur celle de Jésus. Puis, souvenez-vous, Zacharie, le père de Jean, il hésite, hein? Ça donne tout son prix et son relief à la foi de Marie, parce que elle n'hésite pas vraiment. Elle demande simplement comment cela se fera-t-il, puis elle dit oui. Si les merveilles ne manquent pas dans la naissance de Jean, elles ne sont rien à côté de la naissance virginale de Jésus. Du chant des anges, la venue des mages, le texte en mai. Jean est toujours dans l'ombre par rapport à Jésus. Puis il n'est illuminé que de la lumière qui vient de Jésus. D'autres traits aussi orientent déjà le destin de Baptiste vers le Christ. Hein? L'archange Gabriel dit à l'enfant qui va naître d'Élisabeth, « Il ramènera de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu, de façon à préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » C'est la conversion, c'est la préparation qui vont faciliter la venue du Messie, puis sa manifestation au peuple choisi d'Israël. De même, vous savez, le Bénédictus, on appelle ça le Bénédictus, c'est le chant là qui commence par « béni », annonce que l'alliance contractée avec autrefois Abraham, puis Isaac et Jacob, cette belle alliance, ben elle entre dans une phase nouvelle de salut, de pardon, de sainteté, de lumière et de paix. Et je vais vous lire tout à l'heure, je vous lis tout de suite le beau texte de la prière de Zacharie. C'est très beau, c'est pas long. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité son peuple et lui a accordé la délivrance, ainsi qu'il l'avait annoncé par la bouche de ses fidèles, les prophètes d'autrefois, et pour nous sauver de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Et toi, petit enfant, Jean-Baptiste, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu vas marcher devant la face du Seigneur Jésus, pour lui préparer les voies, pour donner à son peuple la connaissance de la liberté par le pardon des péchés. » Alors on voit que dans ce personnage bouleversant qui est Jean-Baptiste, hein, rappelez-vous toujours le film Jésus-Nazareth que vous avez presque tous vu, j'imagine, ce personnage au début du film de Jean-Baptiste hein, qui hurle et qui crie, qui est un prophète déchaîné, un prédicateur d'un courage extraordinaire, puis qui va être mis à mort à cause de la vérité qu'il proclame. Hein. Et dans la naissance de Jésus, c'est évidemment la Nouvelle Alliance. C'est la Nouvelle Alliance qui est prédite dans le chant de Zacharie, là, le père de Jean-Baptiste. L'alliance dans le Christ. Jean-Baptiste, c'est le trait d'union entre les deux alliances. C'est le point de jonction par lequel l'Ancien Testament accède au Nouveau et lui fait hommage de toutes ses richesses. C'est toujours Jésus qui éclaire le personnage de Jean et qui en donne, on pourrait dire, la véritable explication. D'ailleurs, tout ce que nous faisons de bien, aujourd'hui, en cette fin du 20e siècle, début du 21e siècle, c'est éclairé par Jésus. Car Jésus est la lumière, il l'a dit. Puis, à mon avis, il a tellement raison, hein. Quand on vit avec Jésus, il y a une illumination intérieure qui se fait. Tout devient beau, simple et clair. Il va l'éclairer personnellement dans une circonstance mémorable lors de la visitation, hein. Vous vous souvenez? La visitation, c'est quand Élisabeth reçoit la visite de Marie. Toutes les deux sont enceintes. Le texte dit, et Marie entra dans la maison de Zacharie et salua sa femme Élisabeth, enceinte, de Jean-Baptiste. Or, il arriva, lorsque Élisabeth entendit la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein. Un enfant dans le sein de sa mère, c'est un enfant et c'est vivant. Et Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint, et elle éleva la voix avec un grand cri, puis elle dit, « Tu es bénie parmi les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » C'est pas rien, le fruit de son sein. C'est un enfant. Et d'où m'est-il donné qu'elle dit que la mère de mon Seigneur vienne à moi? Car dès que le son de la salutation est arrivé à mes oreilles, mon enfant a tressailli de joie dans mon sein. Et heureuse celle qui a cru que s'accomplirait ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Et c'est alors qu'éclate, vous savez, le beau chant du Magnificat. Tout le monde connaît ça, j'espère. Ah, les gens qui pratiquent pas. Connaissent pas ça, le Magnificat de Notre-Dame de Marie. Jésus avait visité son précurseur, Jean, avant sa naissance même. Il l'avait béni, purifié, enrichi de grâces exceptionnelles. À partir du sein de Marie, il agit déjà. Il est vivant, Jésus, dans le sein de Marie. Ils s'étaient reconnus tous les deux, ces deux cousins-là, sans se voir, sans pouvoir se parler. Déjà, se tissaient mystérieusement entre eux des liens d'une exceptionnelle qualité. Quand Jean sort du désert, sa voix retentit. Fascinant, il se met à annoncer comme imminent le royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est ça? Cette notion de royaume de Dieu, qui nous échappe aujourd'hui, c'est une notion traditionnelle. Elle est importante dans la Bible, mais elle est si parlante pour les Juifs d'alors. Elle est au centre même du message de Saint Jean-Baptiste. C'est la même chose pour tout ce qui suit dans la doctrine de Jésus. Quel choc pour les âmes à cette annonce, hein? On y est enfin, ça y est, le règne messianique tant attendu, tant prié, tant demandé à Dieu, voici qu'il vient, tout proche. Mais quelle sorte de règne, ce règne qui est là? Alors on a tous les espoirs, alors Jérusalem, croit-on, va devenir le centre spirituel du monde. Le Messie, le roi des peuples, et tous les Israélites de bonne foi vont pouvoir entendre dans une grande et immense période de bonheur et d'intimité divine sous la vigne et l'olivier les mots de triomphe. On pense à la libération politique, sociale, religieuse. Mais cependant, Jean-Baptiste dissipe toute illusion, hein. Nul ne peut entrer dans le royaume s'il ne fait pénitence. C'est la pénitence. S'il ne se tourne intérieurement vers Dieu, c'est la conversion. Car il s'agit d'un retournement total, d'une orientation nouvelle de l'âme, dont les gestes extérieurs seront les signes. Il s'agit de revenir au vrai Dieu et de tourner le dos aux idoles. Les idoles, oh mon Dieu, en cette fin du 20e siècle, on est rempli d'idoles, surtout l'idole de l'argent, l'idole du sexe, je dirais l'idole de la bêtise et de l'abêtissement. L'idole, oh, on en a tellement, on a même des vedettes comme idoles. Elvis Presley, etc. C'est insensé. Jean insiste sur cette exigence. À chaque classe d'hommes, Jean adresse les conseils appropriés. Aux riches, il faut partager leurs richesses, dit-il. Aux fonctionnaires, il ne faut pas outrepasser les droits. Aux soldats, il ne faut pas se montrer brutal et rapace. Il s'agit d'obtenir cette pureté fondamentale. Le Messie, en qui se réalise le royaume, va venir alors, et cette venue sera un jugement, comment? Dans le feu et l'esprit. Notre religion est une religion de feu et d'esprit, intelligence des vraies choses et des vraies valeurs et des vraies réalités qui sont souvent invisibles. C'est le fameux jour de Yahvé, peint par les prophètes, sous son aspect triomphant ou terrible, d'accomplissement et de châtiment, mon Dieu. Ce Messie est supérieur en tout à Jean-Baptiste. Il le dit en parlant de Jean. Il dit « Viens après moi, plus fort que moi ». C'est Jean qui le dit. « Je ne suis pas digne d'être son esclave familier. Celui qui vient après moi m'a devancé parce qu'il existait avant moi, pourtant était plus vieux. » Cependant, le mot ultime de cette prédication vigoureuse de Saint Jean-Baptiste, ça va être un cri d'espérance et de joie. Il dit que le pardon va être accordé aux pécheurs qui souffrent de leur misère, car il vient, lui, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand on va à la messe, on demande pardon pour nos fautes au début. Quand on va dans ce petit endroit qu'on n'aime pas tellement, le confessionnal, mais pourtant, c'est là qu'on rencontre Dieu qui ôte le péché du monde. Quand on se met à genoux sincèrement chez soi, ou que assis on demande pardon, c'est la bonne nouvelle d'un évangile de salut qui déjà s'annonce, évangile de pardon et de grâce pour la rémission des péchés, grâce à la tendre miséricorde de notre Dieu, la miséricorde de Dieu. Et le jour de Yahvé, pour les âmes fidèles et simples, est avant tout un jour de pardon et de grâce. Et ce sera la manifestation du Messie, Sauveur d'Israël. Cette manifestation engendre, en fin de compte, quoi? La joie. Les chrétiens sont des êtres essentiellement de joie. La cause profonde tient en un seul mot, le royaume. On appelle ça comme ça. C'est-à-dire, le roi est là. Il est arrivé. Il vient vers vous, il est à vous, il aime son peuple et le peuple l'aime. C'est pas si compliqué. Évidemment, des évangélistes ont des expressions qui n'ont pas toujours des précisions totales. On nous dit qu'il est entouré de foule, Jean-Baptiste. Et cet extraordinaire ascendant de Jean-Baptiste sera si profond et si étendu que plusieurs mois après Jésus, Jésus y faisait encore allusion, et plus tard, Saint Paul, va trouver les disciples de Jean-Baptiste jusqu'à Éphèse. On trouve ça dans le livre des Actes des Apôtres, qui est la première histoire de l'Église, puis dans la Bible, dans le Nouveau Testament, chapitre 19. Jean avait eu à cœur d'atteindre le plus d'âmes possible, et son message, là, il avait déclenché un mouvement spirituel, il avait provoqué des conversions, des changements de vie vraiment remarquables. Il avait suscité une nostalgie de perfection. Que c'est beau, hein? Une nostalgie de perfection. Autour de lui s'était formé un groupe de disciples austères et pieux, jaloux de l'influence de leur maître. Ils toléraient aucune concurrence. Ils étaient soupçonneux à toute renommée étrangère. Encore un indice décisif, celui-là d'une influence en profondeur, puis d'un rayonnement de valeur, au fond. Jean avait un grand ascendant sur ses disciples, et la force de ce rayonnement, Jean-Baptiste la puisait, où? À l'intérieur de lui-même, dans les sources profondes qui nous habitent, là où Dieu nous habite. Et c'est au désert, comme tous les prophètes, que Jean avait approfondi sa mission. C'est là qu'il a pénétré son message. Il parlerait, mais pour en annoncer un autre. Et de toute la prédication de Saint Jean-Baptiste se dégage, quoi, une impression de profondeur religieuse, puis de service. Il faut s'y arrêter un instant parce que Jean représente le type du prédicateur au sens pur. Or que je l'aime, moi, Saint Jean-Baptiste, hein, aucune guérison, aucun miracle dans sa vie. Le seul qu'il accomplit, on peut dire, c'est le miracle de sa propre vie. Il n'a guéri ni les infirmes, ni libéré les possédés, ni manifesté de pouvoir extraordinaire. Le Saint Jean-Baptiste, il fait pas de miracle. Il se montre, puis il baptise, puis il prêche. Il prêche avec une foi intense dans la parole de Dieu qui le traverse là, pour en atteindre d'autres. Lui, c'est un canal de grâce. C'est la voix de Dieu qui crie dans le désert. Il n'a d'autre ambition que de préparer au Seigneur qui vient un peuple qui est disposé à l'écouter et à vivre avec lui. Aussi, ces discours, ces harangues, hein, souvenez-vous du film toujours, elles ont un ton de conviction qui pénètre, qui bouscule, qui inquiète et puis qui convainc. Mais cependant, sa prédication se développe, se précise, se fait plus incisive, plus directe encore, puis il atteint de plein fouet l'orgueil, la fausse sécurité, l'hypocrisie des gens installés. Mais il est aimé. Quelle audace et quelle force de pénétration! Quelle puissance de renouvellement total du problème religieux par une intense et ardente conviction. Saint Jean-Baptiste adore déjà en esprit et en vérité. C'est un adorateur vrai. Jean-Baptiste, qui est un saint absolument fantastique, et les orthodoxes ont bien raison de le mettre tout de suite après la Vierge Marie, mais Jean-Baptiste ne s'embarrasse pas des grandeurs terrestres, ça ne l'intéresse pas. Il ne s'occupe pas des positions acquises. Il s'occupe même pas des susceptibilités nationales, il s'attaque même aux dirigeants, aux rois. Pas d'homme plus étranger que lui aux faiblesses puis aux outrances du nationalisme de son temps. Il est l'écho virulent de la sainteté de Dieu. Et rien que cela. Il ne cherche rien d'autre, il y a un langage aussi droit et aussi vigoureux qui bouleverse les gens. Ça peut pas passer inaperçu. Les phrases de Jean sont courtes et claires, et ses réponses immédiates et sans réplique. Je vous cite certaines de ses paroles qu'on connaît. « Tout arbre qui ne fait pas de bons fruits va être coupé. Que celui qui a de quoi manger et se vêtir partage. » Puis tout à coup, Jean semble prendre un temps de recul et de recueillement. Sa parole se fait plus grave. Alors il va livrer l'essentiel de son message. Il va parler du Christ. Il dit, il y eut un homme envoyé de Dieu. C'est dans l'évangile de Saint Jean. C'est très beau, Saint Jean, l'évangéliste. Le quatrième évangile. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean-Baptiste. Celui-là vint pour témoigner, afin de rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui. Ce n'est pas parce qu'il était, lui, la lumière, mais afin de rendre témoignage à la lumière. Jean lui rend témoignage et s'écrie, disant, « C'était de lui que je disais, celui qui vient après moi a passé devant moi, parce qu'il existait avant moi. » Souvenez-vous aussi sur le mont de la Transfiguration, Élie et Moïse rendent témoignage à Jésus sur le haut sommet du début de l'évangile de Saint Jean, ce qu'on appelle le prologue. Et le baptiste, nouvel Élie, remplit cette fonction-là. Il est associé à la gloire du Verbe de Dieu. Comme sur le mont de la Transfiguration, dans la gloire qu'atteint Jésus, le Verbe de Dieu, eh bien, Jean-Baptiste est associé à la gloire de Dieu. Des années de solitude et de silence, de pénitence et de désert l'ont préparé à ce rôle historique, à cette mission qui voit à glorifier Jésus, à lui rendre justice, quoi, à dire qui il est. Ici encore, on doit remarquer que toute son activité est tendue vers Jésus. Oui, toute sa raison d'être est d'annoncer Jésus, de préparer les voies de Jésus. Il pense pas à lui-même. Son moi ne l'intéresse pas, c'est Jésus qui l'intéresse. Voici que j'envoie mon messager devant toi, avait prédit Isaïe, pour disposer ta voix. Et toute chair, tout homme, toute femme, continuait Isaïe, verra le salut de Dieu, c'est-à-dire va voir la libération que Dieu nous donne, c'est ça que ça veut dire. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez la voix du Seigneur, le chemin du Seigneur. C'est ça que ça veut dire? Quand Jean-Baptiste parle comme ça. Ce qu'il veut dire, c'est cessez donc d'hésiter. Allez-y donc tout droit. La route est droite vers Jésus. Allez, allez. Faites pas de petits détours. Allez pas vous asseoir sous un bosquet. Non, marchez vers Jésus directement. Redresser la voix du Seigneur. Quand le Baptiste parle de Jésus, on sent dans sa voix un frémissement. Il y a un amour humble, un dévouement total. Jean-Baptiste, il reconnaît la distance infinie qu'il sépare de son cousin Jésus. Il n'est pas digne de délier la courroie de sa sandale, de se mettre à ses pieds pour remplir cet office d'esclave. Il ne baptise que dans l'eau. Et lui, Jésus, vous baptisera dans l'Esprit Saint et par le feu. Nous sommes baptisés dans l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est en nous, il devrait brûler nos cœurs. Nous sommes des êtres de feu. Nous sommes enflammés, comme le cœur brûlant de Jésus. Nos cœurs devraient être brûlants puisque nous sommes baptisés, confirmés, communiés, bénis par Dieu. Quand les disciples de Jean s'indigneront que les disciples de Jésus baptisent à leur tour et que tout le monde va à lui, il aura ce mot qui dépeint le plus profond de ce qu'il avait dans l'âme. Il n'appartient pas à l'homme de prendre ce qui ne lui est point donné du ciel, dit-il. Vous-même me rendez témoignage que j'ai dit « Je ne suis pas le Christ ». Mais j'ai été envoyé devant celui-là. C'est sa joie qui est à son comble. Il dit, il faut que celui-là croisse et que moi je diminue. Or que je trouve ce témoignage de Saint Jean-Baptiste sublime. C'est un témoignage aussi délicat que sublime. On peut dire que Saint Jean-Baptiste est l'aurore qui s'efface devant la lumière du jour. Jean-Baptiste est trop heureux d'avoir pu faciliter, annoncer, inaugurer l'arrivée du Christ, de celui qui est l'amour. En cet homme aux vêtements de peau de bête, comme on peut le voir dans des tas d'icônes et d'images et de peintures sublimes à travers l'histoire de l'Église orthodoxe et de l'Église catholique. Puis comme on le voit aussi dans le film Jésus Nazareth, cet homme qui a de l'aspect farouche des anciens prophètes, on sent quand même une grande délicatesse, une tendresse, une abnégation profonde. C'est le don total, renoncé du vrai grand missionnaire prédicateur. Nous sommes tous des missionnaires. Un culte secret chez lui, une capacité surhumaine d'adoration puis de dévotion. Quel modèle pour nous tous. Je ne trouve pas les mots. Devant la fidélité de Jean-Baptiste, devant cette ardeur qui n'ont plus rien à voir avec les sentiments de la terre, Jésus qui savait ce qu'il avait, ce qu'il y avait dans l'homme, ne s'est pas trompé. Un jour, il dit à la foule au sujet de son cousin Jean, qui était alors emprisonné, vous vous souvenez à Machéronte, là, « Qu'êtes-vous allé contempler dans le désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme revêtu d'habits moelleux? Or, ceux qui sont revêtis d'habits somptueux et qui vivent dans les délices sont dans les palais des rois. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, vous dis, j'ai plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, « Voici que j'envoie mon messager devant ta face pour disposer ta voix devant toi. » C'est ça, Saint Jean-Baptiste. Je vous le dis, parmi les fils de la femme, c'est Jésus qui dit ça. Hein? Je vous le dis, parmi les fils de la femme, il n'est pas de plus grand prophète que Jean, Jean-Baptiste. Mais le moindre dans le royaume de Dieu, qui vient là, est plus grand que lui. La loi et les prophètes vont jusqu'à Jean, dit-il. Puis depuis lors, le royaume de Dieu, dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, est annoncé. Et chacun essaie d'y entrer de force. C'est nous, ça, et tout le peuple qui l'a entendu, et les publicains ont donné raison à Dieu, s'étant fait baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi ont rendu inutile pour leur part le dessein de Dieu, ne s'étant pas fait baptiser par lui. Ça peut paraître un peu compliqué, mais voici, essayez d'expliquer ça. Jésus parle de Jean ici en tant qu'il appartient à l'Ancien Testament. Alors là, les bénéficiaires de la loi nouvelle, nous, sont plus grands que lui, puisqu'ils ont accédé à un ordre nouveau, supérieur et définitif. C'est ça que veut dire Jésus. Plus grand, non en mérite, mais en dignité. En mérite, Jean demeure l'un des plus grands après la Vierge Marie, sinon le plus grand. C'est pas en cause, ça. Le rôle de Jean souligne Jésus, rôle exceptionnel et unique. Mais il rentre dans les desseins de Dieu, dans l'histoire unique du salut, de la libération des âmes. Souvenez-vous, peu de jours avant sa mort, le mardi saint, Jésus va revenir sur cette louange de l'œuvre de Jean et à la question qui lui pose ses ennemis. Dis-nous par quelle autorité tu fais cela, ou quel est celui qui t'a donné cette autorité pour prêcher, là? Il répond par une autre question. Le baptême de Jean était-il du ciel ou des hommes? Puis là, les pharisiens sont perplexes. Eux autres, ils se disent, si nous disons du ciel, il va dire, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Mais si nous disons des hommes, le peuple entier nous lapidera, car il est convaincu que Jean était un prophète. Le peuple est convaincu de ça. Alors, ils répondent, nous ne savons pas. Alors, Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dis pas par quelle autorité je fais cela. C'est une façon de lier son sort à celui de Jean-Baptiste. C'est une façon pour Jésus d'affirmer que les pharisiens avaient tort de rejeter la doctrine de Jésus à laquelle préparait la prédication puis le baptême de Jean. Saint Jean-Baptiste est généreux jusqu'à la mort. Souvenez-vous, un Hérode, le roi de Jérusalem, le roi de Judée, a pris et épousé la femme de son frère. Jean-Baptiste le lui reproche crânement. Vous souvenez-vous dans le film encore de Jésus Nazareth? C'est tellement fantastique quand il l'accuse. Vous savez, Hérode passe, là, il est dans une chaise à porteur avec sa femme, une nouvelle femme. Alors, Jean-Baptiste est jeté en prison. Mais le roi le craint. Il le respecte. Il craint la foule, même si Saint Jean-Baptiste n'est pas allé de main morte. Alors, il le considère quand même pour son prophète. Hérodiade, la fille du roi Hérode de Jérusalem, elle, sous l'impulsion de sa femme, de sa mère, elle voudrait bien le faire tuer. Mais, nous dit Saint Marc, Hérode avait du respect pour Jean, sachant que c'était un homme juste et saint. Et il le mettait à couvert, et quand il l'entendait, il était fort perplexe, et pourtant il écoutait volontiers. Alors ici se place un épisode mystérieux qui montre bien en tout cas la place que tenait Jésus dans l'âme et les préoccupations de Jean-Baptiste. Ses disciples lui racontaient les merveilles accomplies par Jésus. Puis un jour, Jean lui dépêche deux de ses disciples avec la question, là, « Es-tu celui qui vient ou si on doit en attendre un autre? » On sait la réponse de Jésus. Hein. Il montre les personnes guéries de sa main, puis il ajoute, « Allez, rapportez à Jean-Baptiste ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient clair. » Quand on est avec Jésus, les aveugles voient ce qui semble si obscur aux autres. Je parle de la vue de l'âme. Les boiteux marchent. Les chrétiens, ça se met en marche quand on est avec Jésus. Les lépreux sont purifiés. On a beau être couvert de péché, d'orgueil, de vices et de toutes sortes de choses, on est purifié. Les sourds entendent. Oui, un vrai chrétien, il va à la messe, puis il entend le sermon, même si c'est pas drôle tous les jours, puis comprend des tas de merveilles. Il entend les paroles de la messe, puis il les trouve belles. Les morts ressuscitent, dit Jésus, les pauvres sont évangélisés. C'était faire allusion aux prédications des prophéties qui concerne le Messie. Alors, quel mobile explique le geste puis la question de Jean? De toute façon, ce que nous savons bien, c'est que Jean, prisonnier, avait les yeux fixés sur Jésus. Ce que nous devinons, c'est qu'il a dû atrocement souffrir d'être séparé si vite de Jésus, jeté en prison. C'est que, au fond, son âme éclairée par Dieu, au-delà des remous superficiels, il gardait une totale confiance envers celui que Dieu avait consacré à ses yeux, que Dieu avait revêtu d'une autorité sans pareille. C'est qu'il offrait son inaction et sa mort probable. Il a eu la tête tranchée, comme vous savez, pour l'œuvre de libération opérée par Jésus. Alors le premier, Jean, va verser son sang. Il va payer de sa vie son attachement au commandement de Dieu par ses lois. Les faits sont bien connus. Nous avons tous une tâche commandée, nous autres aussi. Est-ce qu'on l'a trouvée? Y sommes-nous fidèles jusqu'à la mort? Cette existence fulgurante et bien brève de Jean-Baptiste comporte pour nous un certain nombre de leçons. C'est aussi actuel aujourd'hui, qu'à n'importe quel moment de l'histoire. Jean nous apprend d'abord que Jésus doit être au cœur de nos soucis, de nos préoccupations, de nos horizons. Jésus doit être là, présent au cœur de nos cœurs. Nous sommes sur terre pour faire aimer Dieu par le Christ, pour faire connaître et aimer le Christ, pour nous unir à lui par le moyen de l'Église, de la foi, de la prière et des sacrements. Pour Jean-Baptiste, tout partait de Jésus et tout aboutissait à Jésus. Jésus illuminait sa route depuis le début jusqu'à la fin. Il n'a vécu que pour Jésus, n'a travaillé, parlé, souffert que pour Jésus. Quel modèle merveilleux nous avons en Jean-Baptiste! C'est l'oubli total de lui-même qui caractérise son comportement et son attitude permanente. Dès avant sa naissance, il est saisi par Jésus. Est-ce que vous priez sur une femme enceinte pour que Jésus s'empare, saisisse cet enfant à naître? Nous l'avons fait pour mon petit-fils. J'ai l'impression qu'il a été saisi par Jésus. Loin de lui la pensée de faire quelque chose pour lui-même, pour son intérêt, sa gloire, sa renommée, Jean-Baptiste est un parfait détaché, un parfait serviteur des intérêts de Jésus. Il peut rentrer dans l'ombre, satisfait et apaisé, car il a accompli sa tâche, il a fidèlement rempli sa mission. Puis ses disciples, il va les conduire à Jésus, avant et après son arrestation par Hérode. Ah, comme Jean! Nous sommes tous des missionnaires de Jésus. Et qui ne voit dans ce portrait tout le dessein qui se fait par avance de ce que doit être un vrai chrétien qui est un missionnaire de Jésus? C'est le grand centenaire de la mort de Thérèse de l'Enfant Jésus, patronne des missions. Et aujourd'hui, nous célébrons à Rencontre spirituelle ce grand missionnaire de Jésus, ce premier missionnaire de Jésus, Jean-Baptiste. Et oublions pas, dans le cœur de Thérèse, l'enfant Jésus, il y avait ce même désir. Parce que le missionnaire est fait pour conduire les âmes à Jésus, pour annoncer Jésus, pour lui préparer les voies, même s'il doit parsemer cette route de ses larmes et de son sang, de sa solitude et de sa fatigue. Même s'il doit être lui-même une pierre de la route par où s'avanceront le Saint-Sacrement et la chrétienté nouvelle. Pensons à Marie de l'Incarnation, cette Ursuline du XVIIe siècle qui a vécu à Québec, qui a vu au fondement de notre Église du Québec, elle, personne crucifiée. C'est toujours vrai aussi, aujourd'hui. L'Église s'implante toujours grâce au sacrifice et elle oublie de soi des missionnaires. Ils ont, eux aussi pour devise, il faut qu'ils croissent et que moi je diminue. Il faut que le Christ grandisse, que l'Église nouvelle grandisse et que je meure en terre pour porter beaucoup de fruits. Qui sommes-nous pour penser un instant que nous sommes importants? Quelle farce! Nous ne sommes pas importants du tout. Nous serons morts dans quelque temps. D'autres viendront. C'est le Christ qui compte. C'est lui. Ce qui soutient dans cette entreprise douloureuse et sanglante de toute l'histoire de l'Église, c'est l'amour du Christ. En écoutant Jean-Baptiste, en le voyant, on devine quel culte il portait à Jésus, quel dévouement cordial et affectueux, quel attachement respectueux il lui manifestait. De même, la vie du missionnaire est souvent traversée d'échecs et d'incompréhensions, est souvent douloureuse. Elle sera illuminée par la présence du Christ. Présence qui est pour nous infiniment plus évidente et plus sûre aujourd'hui et plus claire que pour Jean-Baptiste dans son temps. Nous savons, nous, tout ce que Jean ne faisait qu'entrevoir et qu'espérer quand il est mort, la tête tranchée. Nous savons, nous, que le Christ a libéré le monde, qu'il est ressuscité vivant du tombeau. Nous savons que l'Église bouleversante, elle est bouleversante. Elle est la maison de la grâce et du salut, c'est-à-dire de la libération, dont les bienfaits ne se comptent pas, cette Église. Oh, douce Église, dont les fruits de sainteté et de fécondité apparaissent aux yeux les moins prévenus en leur faveur. C'est ce que je fais tous les jours. Le Christ n'est plus seulement pour nous un Messie jeune qui accomplissait des merveilles et faisait courir les foules. Il est le roi des siècles. Il est le fondateur de l'Église. Il est le sauveur ressuscité, toujours vivant. Celui qui a triomphé à jamais du péché, du mal et de la mort. Et dans notre tâche apostolique de baptiser ou de prêtre, baptisé. Quelle force que ce souvenir de Jésus, de tout ce qu'il a accompli pour les hommes et pour les siens. Et cette pensée doit faire que nous nous dépassions nous-mêmes, que nous acceptions les tâches apostoliques que Dieu nous confie, les exigences de la vie chrétienne, le devoir du témoignage et de la prédication, si possible. Qu'est-ce que ça peut faire si on dort 3-4 heures, comme j'ai fait la nuit dernière pour faire cette émission? On se recouchera plus tard. En tout cas, il faut prendre la parole. Oui, il y a 71 ans aujourd'hui, j'ai été baptisé. Je veux que mon baptême de plus en plus soit vivant. Si on ne peut pas prendre la parole, qu'on écrive. Si on ne peut pas écrire de livres, pourquoi pas de bonnes lettres aux journaux? Pourquoi pas intervenir en ondes sur les radios et dire les vraies choses? De la prédication, c'est le dernier trait que je voudrais relever, le dernier exemple que nous laisse Jean. Fort opportunément, en ce temps où le devoir de la parole risque d'être un peu sous-estimé, Jean croyait, lui, à la force et à l'influence de la parole. Jean-Baptiste n'a fait que parler, avec force, à toutes les catégories de gens. Il a su adapter son message et son enseignement à chaque groupe. Il est mort. Il est mort pour avoir parlé, pour avoir osé parler. Nous aussi, nous devons annoncer le Christ. Nous devons rendre compte de notre foi. On ne peut plus rester silencieux devant tout ce qui se passe. Nous devons proclamer qu'il fait bon servir Dieu et vivre dans l'Église et posséder ce trésor qu'est la foi. Le témoignage, c'est un devoir. Il ne se réduit pas au témoignage des œuvres. Il faut aussi joindre la parole. Les deux, celle qui exhorte, celle qui montre le chemin, celle qui induit en tentation de croire, comme disait Jacques Rivière. Je vous ai déjà fait une émission sur Jacques Rivière. Oh, la parole qui enseigne et qui catéchise. Et n'ayons pas peur de parler de Dieu, de témoigner du Christ, de défendre l'Église, d'expliquer ce que c'est que d'être chrétien, et par la plénitude que la foi nous apporte aussi. N'ayons pas peur, à notre place et pour notre part, de prêcher la vérité, même si on n'est pas des saints. Je suis un affreux pécheur, mais je crois. Je le suis, chrétien, je le crois. Dans son homélie de la fête de la Saint-Jean-Baptiste, à l'église Saint-Jean-Baptiste le 24 juin dernier, notre archevêque disait les plus belles choses sur Jean-Baptiste. Soyons heureux d'avoir pour patron Jean le Baptiste. Cet homme était exceptionnel et en son temps, il a exercé un rôle déterminant. Son action se situe à la jointure de deux mondes, celui de l'Ancien et celui du Nouveau Testament, comme je vous disais tout à l'heure. Jean-Baptiste parlait fort. Il était conscient que le moment qu'il vivait était crucial pour l'histoire de l'humanité. Il se savait investi d'une mission qui méritait qu'il y consacre toute sa vie, qu'il y risque toute sa vie, c'est ce que disait le cardinal Turcotte. Et on est étonné de voir quels mots emploie la liturgie aujourd'hui pour parler de Jean-Baptiste. Une épée tranchante, la lumière des nations, toutes ces expressions qui sont présentement expliquées à Jean-Baptiste s'appliquent aussi à Jésus-Christ. Jean-Baptiste est très près de Jésus-Christ. Et le cardinal disait à un moment donné ce que Jean-Baptiste a accompli il y a près de 2000 ans. On peut se demander s'il n'appartient pas à l'Église de notre temps de l'accomplir à son tour et à sa suite. Nous vivons à une époque charnière, et bientôt ce sera l'an 2000. Déjà, ici et là, on commence à s'y préparer. On le sait, les laïcs qui sont les fondateurs de Montréal, Jérôme Leroyer de la Dauversière, Paul de Chemédé, sieur de Maisonneuve, je vais vous en parler dans quelques jours, et Jeanne Mance avaient pour intention première d'évangéliser la Nouvelle-France et d'y apporter la bonne nouvelle du Christ sauveur de l'humanité. Alors, 355 ans passés depuis sa fondation, mais qu'est-ce qu'on fait, nous? Où sommes-nous dans tout ça? Il faut nous demander si personnellement et tous ensemble, nous sommes prêts, dit le cardinal, à relever le défi de continuer à proposer Jésus à tous ceux et celles qui nous entourent et à le faire avec pertinence et de manière crédible. Quelle homélie fantastique et puissante qu'il nous a livrée. Il dit vers la fin, c'est avec une fermeté inébranlable et une audace admirable que Jean-Baptiste a interpellé les gens de son époque. Ton travail a porté beaucoup de fruits. Or, Jean-Baptiste est notre patron, il est notre modèle. Nous devons nous inspirer de lui pour être aujourd'hui dans notre milieu ce que Dieu espère que nous soyons.